5 minutes pour refaire le monde. Geneviève Fontaine de l'association Evaleco et Philippe Chemla des Alpes-Maritimes questionnent l'économie sociale et solidaire.
Bonjour Geneviève.
Bonjour Philippe.
On va parler aujourd'hui de nourrir les villes. Nous serons en 2050 entre 9 et 10 milliards d'habitants sur la planète, en majorité urbains. Et un des enjeux, c'est de nourrir la ville du futur. Et on se rend compte qu'il y a différents modèles qui émergent depuis des modèles très industriels, d'agro-industrie, jusqu'à des modèles plus traditionnels. Il y a peut-être un petit peu confusion sur les termes, les idées, et c'est peut-être de ça qu'il serait intéressant de parler.
Oui, alors en fait, nous, on a découvert ce thème au travers du Festival Alimentaire, qui a lieu chaque année au mois d'octobre, et dans lequel un film qui s'appelle Nourrir les villes, un enjeu pour demain, était proposé, on l'a diffusé, et effectivement, ça soulève pas mal d'interrogations, parce que sous le terme d'agriculture urbaine, on projette souvent l'idée de jardin partagé, d'une agriculture de proximité. Eh bien, en fait, on a découvert que l'agro-industrie proposait aussi un modèle d'agriculture urbaine, d'agriculture en ville, avec des fermes-usines, avec...
Industriel,
dans un but productiviste, mais avec des arguments qui sont des arguments que l'on peut retrouver dans le modèle de l'agriculture urbaine, plutôt jardin partagé et agriculture de proximité, qui sont des arguments au travers du réchauffement climatique et de la lutte contre le réchauffement climatique, de la limitation des déplacements.
Des circuits courts. De l'alimentation bio aussi. C'est aussi un argument qui est mis en avant par ces industriels.
Oui, donc ce film, en fait, n'oppose pas, mais nous propose sous le terme de nourrir les villes et donc d'une agriculture urbaine, deux modèles qui sont en train de se développer. Un modèle qui est d'une agro-industrie, mais en ville, alors qui développe, on peut prendre des exemples, que ça soit la ferme des 1000 vaches, ou que ça soit des grandes structures de pisciculture en zone urbaine, ou que ça soit des serres dans lesquelles sont produites des tomates hors sol, mais à proximité des villes ou sur le toit des usines.
Spécialité hollandaise, on voit aujourd'hui beaucoup de tomates cerises dans les supermarchés à des prix qui sont vraiment ridicules. C'est un produit directement issu de cette façon d'approcher l'agriculture urbaine. Là, on est sur des toitures, des milliers de mètres carrés, si mon souvenir est bon, et on les consomme sans trop se poser de questions, en définitive.
Et surtout, les arguments qui sont développés, c'est on produit à proximité des villes ou dans les villes, donc on réduit les déplacements, on réduit les impacts sur le réchauffement climatique, on développe des circuits courts, puisqu'il y a moins d'intermédiaires entre le consommateur final et le producteur. Un tas d'argumentaires aussi sur les économies d'eau que ça va pouvoir générer, sur le développement d'une certaine économie circulaire, avec des exemples de fermes piscicoles liées à du maraîchage, où il y a des échanges entre l'élevage des poissons et la culture.
Oui, en fait, les salades vont purifier l'eau dont les poissons ont besoin, mais les déjections des poissons vont pouvoir permettre de nourrir les salades, et on se retrouve effectivement dans un circuit fermé qui semble être plutôt vertueux.
Voilà, donc une vision de l'agriculture urbaine qui tranche complètement avec l'image que l'on a quand on dit ce mot, où on pense plutôt à l'autre modèle qui peut être qualifié d'agriculture de proximité. La grande différence, c'est surtout que la finalité n'est pas la même. Dans l'agro-industrie en ville, on a toujours une finalité qui est la recherche de profit, la recherche d'économie d'échelle, avec un argument qui est donné par ces industriels qui est tant que les gens voudront consommer de la viande tous les jours, pas cher, on sera le modèle où on réalise des économies d'échelle tant dans l'élevage que dans l'abattage, tout en réduisant les frais de transport. Eh bien, c'est notre modèle qui sera dominant et ça peut tout à fait s'entendre. Donc avec un objectif de profit, la place du citoyen n'y est pas du tout.
La place des animaux non plus n'y est pas du tout. Les animaux sont considérés comme des usines à viande. On ne tient absolument pas compte ni de leur sensibilité, on passe à côté d'une dimension qui peut paraître importante aussi.
Voilà, et de l'autre côté, effectivement, sans que ça s'oppose vraiment, une autre image de l'agriculture de proximité au travers du développement partout en Europe et dans le monde, de jardins partagés sous différentes formes, de maraîchage en zone urbaine avec des techniques de permaculture qui permettent de cultiver sur des petits espaces morcelés et pas forcément sur des grandes surfaces, avec beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la réappropriation citoyenne de l'alimentation et de l'espace de proximité. Et c'est souvent ça qu'on entend dans le terme agriculture urbaine. Or, voilà, ce film permet de prendre conscience qu'il y a deux modèles qui sont en train de se développer côte à côte et qui reprennent les mêmes argumentaires, sauf que la finalité est différente.
Eh bien, on va simplement rappeler le titre du film. Donc, le Festival Alimentaire, que vous pourrez retrouver tous les ans, au mois de novembre, mais ce film en particulier, l'année dernière, en 2014, « Nourrir les villes, un enjeu pour demain ». Merci Geneviève.
Merci Philippe.
C'était 5 minutes pour refaire le monde, présenté par Geneviève Fontaine et Philippe Chemla. Retrouvez toutes les chroniques en podcast sur le site de Radio Éthique.